Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais que nous prenions un petit peu de temps pour contempler cette image que le Christ nous donne de qui il est et de qui est Dieu, puisqu'il est Dieu, il révèle Dieu. Cette image de Dieu, si différente de celle qu'a dans son esprit cette femme dont nous parle la première lecture, dont le fils tombe malade et meurt, et qui dit à Élie, mais en tant que prophète, « Es-tu venu chez moi pour rappeler mes fautes et pour faire mourir mon fils ?» Vous voyez cette image de Dieu qui est en quelque sorte inscrite dans nos psychologies, de penser que finalement Dieu nous veut du mal. Dieu serait capable d'être à l'origine de ces choses qui nous font souffrir. On la comprend, cette femme. C'est souvent aussi notre réaction instinctive, naturelle, quand nous sommes atteints par le mal dans notre vie, dans la vie de ceux que nous aimons, de ceux qui nous entourent. Mais regardons comment Jésus agit, comment Jésus vit. Il arrive dans cette ville de Naïm et, nous dit saint Luc, il voit la femme qui est en train d'accompagner son fils mort. Il la voit. Notre Dieu, c'est d'abord un Dieu qui voit notre peine. Il la voit et il fut saisi de pitié pour elle. Le terme grec est fort. Il parle des entrailles qui sont émues, qui sont mises en mouvement. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu que le Christ nous révèle. Qui est touché par cette peine qui est la nôtre. Le Seigneur fut saisi de pitié et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Et là aussi le terme grec est fort. Il dit « Il s'avança et se lia à la civière ». Ce n'est pas un petit geste du bout des doigts. Il se lie à la civière, il saisit la civière. Et nous savons bien que ça représente toute l'action du Christ qui vient pour se mettre là où nous sommes, justement, dans notre peine et jusque dans la mort. Il saisit la civière, c'est vraiment le signe de ce que le Christ vient faire, c'est d'habiter notre mort, d'être là, à côté de nous, en nous, jusque dans la mort. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le vrai visage de Dieu. Il s'avança, il toucha la civière, et les porteurs s'arrêtèrent. C'est beau d'imaginer là ces porteurs qui emmènent un peu inexorablement cet enfant jusque dans la tombe, et qui représente finalement le fil du temps, qui nous aussi nous fait avancer vers notre mort inexorablement. Et le Seigneur qui vient arrêter ça. Vous voyez, la puissance de Dieu sur le temps et sur la mort. Puisque juste après, il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Je crois qu'il faut prendre du temps pour contempler là ce que Jésus nous révèle à travers tout son évangile, mais tout est condensé dans ce geste qu'il pose pour cette veuve et son enfant, de son amour pour nous, de sa miséricorde et en même temps de sa puissance sur le temps, de sa puissance sur la mort. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Alors, important de contempler ça, parce que, encore une fois, c'est pas l'image que nous avons naturellement en nous de Dieu. C'est là qu'on voit d'ailleurs que Dieu a besoin de se révéler, tel qu'il est. C'est pas une projection que nous faisons. Nous, la projection que nous faisons de Dieu, c'est celle de la veuve de la première lecture. C'est de croire que Dieu est un Dieu qui finalement est jaloux de sa toute-puissance, de son bonheur, etc., et qui ne le veut pas pour nous. C'est diamétralement opposé à ce que le Christ nous présente, là, dans l'Évangile. Et vous voyez, ça nous dit déjà que nous avons besoin souvent de revenir à l'Évangile, et à l'Évangile tel qu'il nous est transmis par l'Église. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh mais moi je crois en Dieu, je prie Dieu et ça me suffit. » Quelle idée on finit par se faire de Dieu quand on est livré à nous-mêmes? Sans doute une idée très fausse de Dieu. Nous accueillons celle qui nous est révélée par le Christ. Mais pour ça nous avons besoin du Christ, nous avons besoin de l'Évangile, nous avons besoin de l'Église qui est corps du Christ pour nous transmettre la vraie image de Dieu, qui est magnifique. Voilà. Alors aujourd'hui particulièrement, accueillons-la. Et puis je voudrais faire encore deux remarques. D'abord, c'est une veuve, et ce fils est un fils unique. Ça nous dit bien que Jésus en particulier, là, est touché par ce qui va être la solitude de cette femme. Et il intervient contre cela. C'est important de se dire que Dieu ne veut pas la solitude, ne veut pas notre solitude. Et d'une certaine façon, avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Chaque fois que nous risquons d'être seuls, il vient. Il vient pour que nous ne soyons pas seuls. Ça, je crois que c'est fortement marqué par Saint Luc. Cette femme, elle est seule. Eh bien, le Christ s'arrête. Et le Christ vient à elle. Et c'est vrai pour nous aussi. Nous ne sommes jamais seuls, parce que Dieu ne le veut pas, et parce que Dieu sera là. Ça nous dit aussi que peut-être, si quelquefois, nous voyons des gens autour de nous qui sont vraiment dans la peine, et nous avons l'impression que Dieu ne fait rien pour eux, ça veut dire que peut-être aux yeux de Dieu, ces personnes ne sont pas seules, ou en tout cas ne devrait pas être seul. Et ça doit nous interroger, nous. Est-ce que le Seigneur n'attend pas, pour intervenir, que nous intervenions nous d'abord, parce que Dieu l'attend de nous d'abord. Et si telle ou telle personne était vraiment seule et qu'il n'y ait aucun autre moyen, oui, le Seigneur interviendrait. Mais là, le Seigneur n'intervient pas parce qu'il y a des personnes autour qui peuvent intervenir. Vous voyez, ça doit nous interpeller un peu, comme on dit aujourd'hui, de se dire, est-ce que c'est pas moi qui devrais là faire en sorte que telle ou telle personne ne soit pas seule. Si le Seigneur attend, c'est parce qu'il considère qu'il y a des personnes qui sont censées intervenir avant lui. Voilà. Et puis, une dernière remarque, c'est de se dire que dans cette action de vie du Seigneur, nous voyons là à quel point le Christ, Dieu, est source de vie. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. C'est cette description-là, moi, m'évoque des résurrections spirituelles aussi. Il n'y a pas que la résurrection de la mort dont nous avons besoin. L'intervention de vie du Seigneur, nous en avons besoin aussi pour de nombreuses résurrections que je qualifie de spirituelles. Le jeune homme s'assit. Combien de fois nous voyons autour de nous des gens qui auraient besoin de pouvoir s'asseoir, au sens de se poser, de trouver leur place. Ça serait une résurrection spirituelle. On voit des gens qui peinent, qui s'épuisent à essayer de trouver leur place et le monde ne leur donne pas de place. Eh bien, cela aussi touche le cœur de Dieu, qui voudrait permettre à chacun de trouver sa place, de pouvoir reprendre en main sa vie. Et peut-être que là, il y a aussi des personnes autour de nous qui attendent de nous que nous fassions ce geste, que nous les aidions de la part du Christ, à pouvoir reprendre en main leur vie. Il s'assit, il se mit à parler. Combien de gens qui ne peuvent plus parler, parce qu'ils n'ont personne à qui parler, ou parce qu'ils se sont enfermés en eux-mêmes, combien de ruptures dans des familles qui sont des ruptures de parole, qui ressemblent à cette rupture de la mort. Sans aller jusque-là, mais on n'en est quand même pas très loin. Et il faudrait redonner cette circulation de la parole, qui serait une forme de résurrection. Peut-être que nous l'avons déjà expérimenté avec telle ou telle personne, tel ou tel voisin, tel ou tel membre de notre famille. On a vécu pendant tant de temps sans se parler. Et le jour où on recommence à se parler, on sent que la vie recommence, que la vie redémarre. Eh bien, dans ces cas-là aussi, nous avons à faire appel au Seigneur pour qu'il exerce sa puissance de vie. Et nous avons à nous demander, est-ce que le Seigneur n'attend pas que ce soit toi qui permette cette forme de résurrection spirituelle? Et puis le dernier geste, peut-être le plus beau, Jésus le rendit à sa mère. Je ne sais pas bien comment il a fait, Jésus. Peut-être que si l'enfant était petit, il l'a pris. Il l'a pris dans ses bras pour le donner à sa mère. C'est un beau geste. Aujourd'hui, il faudrait peut-être que les parents d'entre vous re-regardent leur enfant comme leur étant donné par Jésus, confié par Jésus. Ton enfant, là, t'a été confié par Jésus, il l'a pris dans ses bras et il te l'a donné, comme il te le redonne chaque fois qu'il est source de résurrection au sein de la famille. Et puis il faudrait que nous tous qui sommes enfants, eh bien, nous pensions que nous avons été donnés à nos parents, que c'est une volonté de Dieu, là, de nous placer dans cette famille, qu'il y a cette présence de Dieu là au lien de la famille, et nous dire que là on a un lieu aussi très important où on a besoin de la résurrection spirituelle. Je l'ai déjà évoqué à propos de la parole, mais c'est vrai pour plein de choses. Ces liens de famille qui ont si souvent besoin d'être ressuscités, d'être reparcourus par la puissance de vie du Seigneur. Eh bien, le Seigneur peut le faire. Vous voyez, peut-être que s'il y avait une seule chose à retenir de cet évangile de ce dimanche, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'il est source de vie. Mais qu'il faut lui permettre de l'exercer. En tout cas, il faut vivre dans cette confiance en Dieu qui est source de vie. Nous voyons comment chez saint Paul, dans la deuxième lecture, parce qu'on peut se demander un peu ce que fait cette deuxième lecture-là, dans la liturgie de la parole aujourd'hui, eh bien je crois que ce que nous pouvons regarder là, c'est comment dans la vie de saint Paul, s'est exercée aussi la puissance de résurrection. Sa conversion a été une puissance de résurrection, une puissance de vie que le Seigneur est venu infuser dans sa vie. Le Seigneur est venu le toucher sa vie, et ça a changé sa vie. Bien, posons-nous la question aussi, où est-ce que nous avons besoin de la puissance de vie du Seigneur dans notre propre vie? Et aujourd'hui, dans cette Eucharistie et dans cet offertoire, apportons-lui notre vie, particulièrement dans ces lieux qui sont, on pourrait presque dire, nécrosés, qui sont déjà marqués par la mort. Vous voyez, tous ces éléments de notre vie qui sont déjà sur une civière, sur un brancard qui est conduit à la mort, apportons-les au Seigneur pour qu'il les touche, qu'il fasse passer sa puissance de vie. Et pensons à ces relations aussi autour de nous qui auraient tant besoin d'être revivifiées. Et pensons à tous ceux qui sont autour de nous et dont nous voyons qu'ils sont dans cette situation qui est presque de cette veuve. Et demandons au Seigneur, confions-les au Seigneur, demandons au Seigneur de venir toucher leur vie. Et puis demandons aussi, comme nous l'avons fait dans la première oraison, au Seigneur, qu'il nous donne la force de voir et d'agir pour être nous-mêmes les instruments de sa puissance de vie auprès des autres. Amen.